Sur les ondes de Foi FM, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Bien sûr que je vous salue, hein. Et une autre belle journée qui est là devant nous, qui nous attend avec les activités que le Seigneur a préparées pour nous. On le remercie pour la santé qu'il nous garde, n'est-ce pas? Le précieux trésor d'un homme, nous dit la parole, c'est son activité. Alors, tant qu'on peut demeurer actif, on y est très reconnaissant. Et lorsqu'on sera supposément inactif, ben on demeurera actif parce que la prière elle-même est une activité extrêmement importante. Donc ce matin, nous poursuivons notre marche dans Daniel, chapitre 11, verset 2, jusqu'au chapitre 12, verset 3, que j'ai intitulé « Guerre et bruit de guerre ». Alors, nous poursuivons donc ce matin notre considération de cette longue prophétie de Daniel 11, Et nous ne relirons pas tout le texte de ce matin que nous avons lu lors de la dernière émission, mais nous ferons intervenir certaines portions là que nous considérerons d'un peu plus près. Donc, lors de notre dernier programme, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous étions laissés sur un exemple frappant de précision, vous vous en souviendrez, exemple de précision de réalisation de la prophétie. On pourrait citer encore moult autres exemples au fil du chapitre. Ce matin, nous allons considérer le cours des événements rapportés dans cette prophétie-là et on pourrait dire, au fin de meilleure compréhension des choses, au fin d'une meilleure appréhension, que ça se divise en trois phases. Et nous verrons ensuite ce que cela signifie pour Daniel et pour nous. Dans un premier temps, voyons donc la première phase. Cette première phase de l'histoire va des versets 5 à 20, et elle couvre le conflit entre les Ptolémées et les Séleucides jusqu'à l'assassinat de Séleucos II en 175 avant Jésus-Christ. Ici, nous sommes face à une séquence sans fin de confrontations, de guerres, de magouilles politiques, alors que la balance du pouvoir va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sans jamais trouver son aboutissement final. Et nous avons ici une perspective réaliste de l'histoire. D'une part, donc, c'est le récit continu de guerre et de bruit de guerre, alors qu'un empire cherche à en dominer un autre, de sorte que la vague dans les affaires humaines vient et va sans ultimement accomplir quoi que ce soit. Le pouvoir politique change de main, mais n'arrive jamais à imposer un repos durable. D'autre part, Daniel 11 nous montre que le monde déchu, ce n'est rien de plus et rien de moins que la poursuite du vent, comme le souligne si bien l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Pourquoi Daniel doit-il recevoir cette révélation au sujet de l'histoire dans sa situation particulière à lui? Le but, c'était simplement de mettre en perspective les difficultés auxquelles les Juifs étaient confrontés à son époque, là, en 536 avant Jésus-Christ. Il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait rien d'unique dans leurs épreuves et leurs tribulations. Les intrigues qui retardaient l'œuvre de reconstruction du Temple, qui retardaient la réfection du Temple de Jérusalem et de la ville, ce n'était pas que des éructations temporaires de l'histoire, mais bien les caractéristiques constantes de la vie dans ce monde. Leur expérience ne devait pas les étonner comme si c'était quelque chose hors contrôle qui venait les frapper. Dieu demeurait souverain. Dieu demeurait en contrôle de ses machinations ennemies. Non plus qu'il ne devait être tenté de prendre les choses en main, là, comme si s'élever contre les autorités aurait pu favoriser l'établissement du royaume de Dieu plus rapidement. La patiente endurance continuait d'être le mot d'ordre jusqu'à ce que Dieu souverainement en arrive à intervenir en son temps. Et nous avons une belle leçon ici, chers amis. Les royaumes du monde, souvent là, semblent irrésistibles, dans leur capacité d'accomplir de grandes choses. Les royaumes du monde semblent posséder une puissance telle que les chrétiens peuvent être intimidés et ils peuvent même être amenés dans un état dépressif qui va les amener à se soumettre. Ou encore, ça peut être le contraire, ils peuvent être séduits au point d'utiliser la puissance du monde pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, il est extrêmement important d'être bien au fait de cette réalité. Les royaumes de ce monde ne peuvent ni détruire l'œuvre de Dieu, non plus qu'ils ne peuvent l'établir. Ils ne sont que des outils aux mains d'un Dieu souverain qui peut révéler la fin depuis le commencement parce que seul, lui seul, contrôle ultimement les affaires des hommes et aussi les affaires des nations. Et c'est une vérité qui s'applique à plus petite échelle également. Lorsque nous sommes devant la menace de perdre un emploi, lorsque nous sommes devant des décisions politiques qui sont au-delà de notre contrôle et qui menacent notre liberté même et qui viennent faire accroc à notre mode de vie, lorsque nous sommes devant une menace à notre santé et même à notre vie, elle reste. Dans toutes ces périodes-là, dans toutes ces saisons d'incertitude, nous devons fermement nous accrocher au fait que tous les événements de ce monde, du plus petit jusqu'au plus grand, ne sont pas seulement connus de Dieu, mais sont sous son souverain contrôle et sa souveraine puissance. On l'a vu lors de notre dernière émission, le Seigneur avait même prévu que le roi Ptolémée enverrait sa fille à Antioche pour qu'il l'épouse. Il avait même prévu ce détail-là. Rappelons-nous ce que l'Écriture nous dit, d'ailleurs, quant au plus grand crime de l'histoire humaine. Parfois, il peut nous sembler qu'une catastrophe est d'une ampleur telle qu'elle échappe même au contrôle de Dieu, mais rappelons-nous ce que l'Écriture nous dit quant au plus grand crime de l'histoire humaine, la crucifixion du Christ Jésus, le Dieu fait chair. Acte 4, 27-28. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Bien sûr que Hérode et Ponce Pilate sont absolument coupables de leur action, mais leur action n'échappe pas au conseil de Dieu, à ce que Dieu avait arrêté d'avance. Voilà donc pour la première phase. Venons-en maintenant à la deuxième phase de cette interprétation de la prophétie de Daniel. La deuxième phase, on va l'appeler Antioche 4. Après 15 versets, pour couvrir le règne de 7 rois séleucides sur une période d'environ 150 ans, les 15 prochains versets portent leur attention sur le règne d'un seul roi séleucide. Il s'agit de Antioche IV qui accède au trône par toutes sortes d'intrigues. Antioche Épiphane, qu'on l'appelle également. Versets 21-23. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisé, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche, et il aura le déçu avec peu de monde. Donc, Antioche a commencé avec un soutien très mitigé, mais son pouvoir s'est graduellement accru par le biais de toutes sortes d'alliances, des alliances qu'il respectait lorsque ça faisait son affaire, et lorsque ça ne faisait pas son affaire, il les balançait, il les larguait par-dessus bord. Et ceux qui lui résistaient se voyaient rapidement balayés de la scène, vous savez. Et ça, on a un exemple ici, là, ça inclut le grand prêtre juif Onias III, qui lui résistait aux politiques d'hellénisation d'Antioche, parce que Antioche voulait vraiment hénéliser l'Empire, et Onias III s'est vu relevé de ses fonctions sacerdotales. Il était le grand prêtre, et il était remplacé par une espèce de marionnette, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était beaucoup plus conciliant, quelqu'un qui était soumis aux visées d'Antioche. Donc, au cours de cette période, nous assistons à la reprise des vieilles hostilités. Les vieilles hostilités entre les Séleucides et les Ptolémées, hein, les rois du Nord et ceux du Sud. Nous disons au verset 25, « À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, contre le roi du Sud, donc hein, contre les Ptolémées. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. » Donc, Ptolémée IV, le roi du Sud, c'est lui qui initie les hostilités, mais il est défait et il est capturé par Antioche IV. Quelques années plus tard, cependant, en l'an 168 avant le Christ Jésus, Antioche décide d'envahir à nouveau l'Égypte. Cette fois-ci, les résultats ne sont pas ce qu'il attendait. Les résultats, en fait, se sont avérés désastreux. Parce que là, le pouvoir méditerranéen montant, les Romains, ah ben voilà, Rome commence à montrer son nez, Rome commence à prendre du poil de la bête, n'est-ce pas? Les Romains s'impliquent dans la dispute et ils forcent Antioche à retraiter. C'est ce que nous avait prédit le verset 30. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il reboussera chemin, puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Donc, des navires romains s'avancent contre lui et le forcent à prendre la poudre d'escampette. Et là, il est vraiment pas de bonne humeur, le grand garçon, et il tombe à bras raccourcis sur le peuple saint. Une rumeur avait circulé en Juda pendant que Antioche combattait en Égypte. Une rumeur avait circulé donc qu'Antioche était mort dans la bataille. C'est ça, ça avait grandement encouragé les Juifs à se soulever. À son retour, Antioche, déjà, n'est-ce pas, passez-moi l'expression, sur le gros nerf, hein, assaille Jérusalem, massacre plusieurs Juifs et il y érige une forteresse pour ses troupes. Il bannit, il interdit les pratiques juives comme la circoncision. Il élimine les offrandes régulières au temple et vous savez quoi? Il pousse même l'audace, le blasphème jusqu'à offrir une truie sur l'autel. D'abord, c'est un animal femelle, ensuite c'est un animal impur. Vraiment, c'est l'abomination de la désolation. Il offre une truie sur l'autel, il profane le lieu très saint, et qu'est-ce qu'il fait ultimement? Il dédie le temple à l'adoration de Zeus. Nous lisons au verset 31, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Autre remarquable accomplissement de la prophétie. Bon, alors, il y a quelques Juifs qui, devant cet état de fait, cèdent sous la pression et collaborent avec les forces d'Antioche. Mais, cependant, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui résistent fidèlement. Et vous savez quoi? Ils le font même au prix de leur vie, alors qu'on les met à mort par l'épée ou qu'on les brûle. Nous lisons de la prophétie au verset 33, « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude, il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. » Autre réalisation détaillée, n'est-ce pas? Et ça nous amène à la troisième et à la dernière phase de cette prophétie-là. Troisième phase que nous allons appeler « Quelqu'un de plus grand qu'Antioche ». Aussi pénible pouvait être la situation que nous venons de décrire, le pire était à venir. Versets 36 à 45. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il conspirera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, et il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Ici, mes amis, ça se corse un tantinet. Hein? C'est pas ce qu'on peut appeler là d'une clarté cristalline. Bien sûr que ces versets s'appliquent dans un premier temps à Antioche Épiphane. Les commentateurs bibliques s'entendent que le passage fait référence cependant à un roi beaucoup plus important qu'Antioche Épiphane. Antioche, en quelque sorte, ne fait que représenter un modèle de ce roi final. On voit d'ailleurs que les événements qui entourent la mort du roi, au verset 40 et 45, ne s'harmonisent pas avec la manière dont Antioche Épiphane est décédé en l'an 164 avant Jésus-Christ. Lorsque nous gardons à l'esprit, la précision de l'accomplissement des versets précédents de ce chapitre-là, il devient clair que ceux-ci pointe vers un plus grand accomplissement à venir. En théologie, on parle d'un sensus plenior, un sens encore plus plein, un sens ultime. Matthieu chapitre 24, rappelons-nous cela. Matthieu chapitre 24 anticipe ce double accomplissement alors qu'il fait référence à la fois à la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, mais il fait aussi référence aux événements de la fin des temps. Vous voyez, il y a un double accomplissement, un accomplissement immédiat et un accomplissement futur. Mais c'est la même chose ici. Il y a un accomplissement immédiat dans le cadre, dans le personnage d'Antioche Épiphane, mais il y a aussi un accomplissement futur qui va jusqu'à l'Antéchrist. Alors, c'est dire que l'histoire ne viendra pas à son terme avant la venue de cette autre version d'Antioche, comme je viens de le dire, l'Antéchrist. Donc, que nous enseigne cette prophétie de la venue des jours sombres d'Antioche 4 et encore davantage d'un plus grand Antioche? Le but de cette histoire, c'est de mettre nos vies en perspective, chers amis. Est-ce que Daniel était troublé, affecté par les difficultés réelles de son époque? Bien sûr qu'il était accablé. Et le Seigneur répond en annonçant que des temps encore plus difficiles se profilaient. Est-ce que nous sommes troublés, accablés par le monde présent, par les problèmes auxquels nous faisons face? Ben, prenons courage, parce que ça pourrait être bien pire. En fait, nous n'avons pas à attendre la venue de l'Antéchrist final pour trouver une détresse plus grande que la nôtre. Il y a des croyants dans plusieurs parties de notre monde, vous savez, aujourd'hui, dont les possessions sont saisies, dont les membres de la famille sont kidnappés et on en fait des esclaves. Il y a même des chrétiens, et en grande quantité, vous savez, qui paient leur fidélité de leur vie. Ben, Daniel 11 nous enseigne comment vivre fidèlement au milieu des pires épreuves. Et les leçons de ce chapitre 11-là peuvent se résumer par quatre impératifs, quatre verbes à l'impératif. Le premier, crois. Le deuxième, résiste. Le troisième, enseigne. Et le quatrième, prie. Premièrement, nous sommes appelés à croire. Verset 32 nous dit que ceux qui connaissaient leur Dieu, qui sont demeurés forts et qui ont pris action, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Croire, connaître, c'est croire. Connaître, littéralement, veut dire naître avec. Donc, croire, rester fermement attaché à la foi. Deuxièmement, nous sommes appelés à résister fidèlement, quel qu'en soit le prix. Verset 32 encore. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Ça, ce n'est pas sans nous rappeler les paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile. L'Évangile de Matthieu, entre autres, chapitre 10, verset 28, où le Seigneur nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Faut craindre le Dieu Tout-Puissant qui a la capacité d'envoyer les non-croyants, les infidèles, dans l'enfer éternel. Troisièmement, nous sommes appelés à enseigner ceux autour de nous. Verset 33. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Les gens, là, les gens ont besoin de savoir que l'histoire à un but qui est déterminé par Dieu. Les gens ont besoin de savoir que l'histoire n'est pas une succession d'événements, une succession de saisons qui s'en vont aux caprices du temps, n'est-ce pas, soumis au seul hasard. Non, l'histoire a un but déterminé par Dieu et notre seule assurance, elle va bien au-delà de cette vie éphémère. Notre seule espérance doit être investie en Dieu qui est venu nous visiter, qui est venu nous apporter la bonne nouvelle du salut dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens ont besoin d'être instruits, ont besoin d'être évangélisés. Ah ben voilà le mot, évangélisés. Ont besoin d'être mis au courant de la bonne nouvelle, c'est ce que le mot évangile veut dire. Alors, ils ont besoin de voir ceux qui sont les plus sages. Les plus sages, ce sont les croyants, pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, mais ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, ils sont nés de nouveau et ils vivent selon la sagesse de la parole de Dieu. Ils ont besoin de répandre cette bonne nouvelle-là, comme nous dit le verset 33. Donc, crois, résiste, enseigne. Et quatrièmement, nous sommes appelés à prier. La victoire dans ce conflit ultime n'est pas remportée par les sages parmi le peuple de Dieu qui triompherait du malin par leur propre force, qui persévéreraient uniquement parce que ce sont des toughs, pas du tout, parce qu'ils ont de la volonté, pas du tout. La victoire nous vient d'en haut, la victoire vient plutôt des cieux. Nous lisons au chapitre 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. » Les croyants ne persévéreront pas jusqu'à la fin en raison de leur propre fidélité. Il n'y a aucune puissance rédemptrice intrinsèque dans le sang des martyrs, vous savez. Ceux qui entrent au ciel, qu'ils soient morts martyrs ou qu'ils soient morts d'une maladie ou morts naturellement ou par un accident, ils entrent au ciel par la seule puissance du sang de l'agneau. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, Je reprends. Au chapitre 7, verset 14, n'est-ce pas, c'est Jean qui dit « Qui sont ceux-ci, mon Seigneur ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Voilà pour la mort des martyrs. Et au verset 11 du chapitre 12, il nous est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Lorsqu'on va se présenter au ciel devant le Seigneur, on n'arrivera pas le torse bombé en disant « Seigneur, j'espère que tu apprécies le fait que moi j'ai persévéré. » Non, on va jeter toutes nos couronnes à ses pieds, parce que notre persévérance, c'est un don qui vient de lui, c'est une grâce qui vient de lui, grâce que nous renouvelons au quotidien dans nos vies par la communion avec lui qui s'appelle la prière. La prière, l'une des activités les plus dramatiquement, les plus tragiquement négligées par l'Église du Seigneur. La prière. Là où on va chercher la puissance, la prière, le poumon de l'âme, là où on va chercher l'oxygène pour respirer à l'aise dans nos âmes. Chers amis, ce témoignage-là, là, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que vous avez ce témoignage que vous avez été lavé par le sang de l'agneau, que vous avez été lavé par le sang de Jésus? Si vous ne l'avez pas, ben, écoutez, vous n'êtes pas purifié, vous êtes corrompu, vous êtes sale, vous êtes impur. Il n'y a aucune possibilité pour vous d'entrer au ciel. Il est impératif pour un pécheur, pour entrer au ciel, qu'il vienne se placer, qu'il vienne sous le parapluie, n'est-ce pas, sous la puissance nettoyante, purificatrice, n'est-ce pas, du sang de l'agneau. Hein? C'est un récurrent puissant qui enlève tous les péchés, qui vient purifier la conscience des œuvres mortes. Notre vie n'est que péché en action, en pensée et en parole. On a besoin d'un récurrent puissant et le sang de l'agneau vient nous laver de nos péchés. Le sacrifice du Christ Jésus en croix, reçu par la foi lorsqu'on s'engage pour lui, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on vient à lui de tout notre cœur, nous donne cette purification-là et ce témoignage-là. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Puisse le Seigneur nous donner la sagesse, n'est-ce pas, d'y venir et d'y persévérer. Entre-temps, l'émission vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous connaissez notre adresse, nos numéros de téléphone et notre site Internet où vous avez notre adresse courriel et beaucoup d'autres renseignements. Merci d'avoir été là ce matin. On se retrouve pas plus tard que lors de la prochaine émission. Et d'ici là, que le Seigneur vous baigne dans sa paix et dans sa grâce. À bientôt.